D'abord, il a fallu que je comprenne ce que c'est que ce que fait l'AMF. Ça fait 8 fois que tu nous dis régulateur. Commençons par ça. L'AMF, est-ce que c'est quoi? C'est le gendarme des bourses? C'est le gendarme des banques?
De façon,
c'est quoi exactement l'AMF?
Je vais répondre à ta question pour mettre les choses en contexte.
Une grande conversation de l'Institut Néo-Québec. Invité Oumar Diallo, directeur FinTech et Innovation à l'Autorité des marchés financiers. Nous nous sommes séparés à la fin de la première partie de cette édition des Grandes Conversations lorsque je posais la question à mon invité Oumar Diallo de savoir ce qu'était et faisait l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Je vous propose donc d'écouter sa réponse et la suite et fin de notre conversation.
Quand j'étais chez PwC, et je m'entends très bien avec mon ancienne patronne, Françane, une dame extraordinaire. Je suis curieux de nature et je suis un peu geek. Donc j'aime tout ce qui est technologie, ordinateur, etc. Donc, à l'époque, on parlait déjà de chaînes de blocs, etc. Bon, voilà.
C'est quoi les bitcoins là?
Pas exactement, mais...
Vraiment, on parlait, dis-toi que tu es à côté de toi, quelqu'un qui est nul dans ses affaires.
Donc, ces questions, en fait, de chaînes de blocs, Bitcoin, etc., arrivaient de façon... on en discutait beaucoup. Parce que ce sont des technologies qui peuvent vous aider aussi en termes de comment vous faites, vous vérifiez les traces d'audit, etc. Bref, il y a plusieurs applications possibles dans le domaine de l'audit en général ou dans le domaine de la gestion des risques. Assez rapidement, chez PwC, je suis devenu un peu la personne de référence pour former les employés en interne, donc les autres consultants de PwC sur ces sujets, et également des clients, en fait, qui voulaient en savoir plus. C'est quoi une chaîne de blocs? C'est quoi un Bitcoin, etc. Donc, je faisais ça déjà chez PwC, mais c'est parce que c'est de la curiosité intellectuelle.
Okay.
C'est des choses que je regardais le week-end, etc. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en 2018-2019, plusieurs régulateurs dans le monde se sont dit, bon, on voit que les chaînes de blocs, etc., ont certaines applications dans le domaine de la finance et qu'on voit le développement de ce qu'on appelle communément les crypto-monnaies, etc., qui commence à émerger et à être un phénomène qui requiert quand même un encadrement réglementaire. Okay. C'est à ce moment-là, en fait, que l'AMF a créé un poste, donc le poste directeur FinTech et Innovation. Et lorsque ce poste a été créé, je me suis dit, bon, avec tout mon background en gestion des risques, etc., ben je passe mes journées à expliquer à mes clients comment respecter l'encadrement réglementaire de Bâle, du BCIF ou de l'AMF. Mais pourquoi pas appliquer? Pourquoi pas ne pas mettre mon nom dans le chapeau? Et bon, après, en long processus, j'ai obtenu le poste. Et pour revenir en fait à tout ce qui touche FinTech, innovation, en fait, on parle de Bitcoin, etc., dans la grande famille des FinTech parce que, en gros, c'est ce qu'on appelle des technologies appliquées à la finance. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'industrie financière est en train de se numériser. Et ce que tu vois, par exemple, avec les crypto-monnaies, etc., c'est une des articulations possibles de cette numérisation de l'industrie financière qu'on voit partout, en fait. Aujourd'hui, tu peux faire tout un tas de transactions sur ton téléphone portable sans passer par une succursale. Ça, c'est que... On numérise certains processus qui n'étaient pas possibles dans le passé. Donc, exemple, tu vas prendre une photo de ton chèque pour le déposer, tu vois. C'est une forme de numérisation, en fait. Donc, mais l'enjeu, en fait, c'est que avec cette numérisation de l'industrie financière, tu as des risques.
Okay.
Et nous, notre job, en fait, c'est de protéger les consommateurs et les investisseurs et de s'assurer que certains risques sont encadrés. Et c'est tout le rôle que nous avons, mes collègues et moi, parce que je ne suis pas seul, pour s'assurer que toutes ces personnes qui développent des solutions technologiques qui vont s'appliquer à la finance puissent le faire de façon responsable et éthique. Je vais revenir sur l'éthique un peu plus tard. Et pour y parvenir, mais forcément, nous, on administre un certain nombre de lois et de règlements et tous ces intervenants doivent s'y conformer. Et c'est là où il y a un rôle important d'élaboration d'un encadrement réglementaire pour qu'il soit à jour, avec les évolutions technologiques que nous voyons, mais également en accompagnement, parce que ce n'est pas juste être en gendarme, c'est de s'assurer aussi que les personnes de bonne foi, de bonne volonté, nous rencontrent et qu'on puisse justement les accompagner pour qu'ils mettent en place les bons process pour respecter la réglementation.
Pour qu'on aille plus vite, mais surtout dans le cœur du sujet, faut-il avoir peur ?
Non. En fait, quand vous connaissez quelque chose, la peur, c'est un peu l'inconnu. Donc, okay. Vous rentrez dans une salle, la lumière est éteinte, vous ouvrez la lumière, ok, il y a quoi ? Ce que je trouve extraordinaire avec mes collègues, c'est que, bon, déjà, c'est des gens extrêmement brillants, compétents, etc., qui ont le sens du service public, ça, je dois le mentionner, mais qui vont regarder vraiment ce qu'il y a sous le capot. Lorsque les crypto-monnaies, nous, on les appelle les crypto-actifs dans notre jargon, ont commencé à vraiment à prendre beaucoup d'élan, en fait, surtout en 2020, 2021, etc., j'ai des collègues de toutes disciplines, donc des juristes, des économistes, etc. On a constitué des groupes de travail pour comprendre de façon très précise comment fonctionnent toutes ces affaires. Et ça te demande en fait certaines compétences qui, moi, quand j'ai fait mes études universitaires, n'étaient pas forcément enseignées dans les facs.
Tout à fait.
Donc, c'est des compétences en programmation. Mm-hmm. Si tu veux savoir comment fonctionne la chaîne de blocs Ethereum, sur laquelle sont programmées de nouveaux plusieurs applications en fait de finances décentralisées, mais il faut que tu aies des compétences en Solidity, qui est ton langage de programmation. Donc c'est pas tout le monde qui sait faire du Solidity. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois quand même te plonger, ouvrir pour voir ce qu'il y a sous le capot, pour être en mesure de comprendre ça et pour être ensuite en mesure de prendre des bonnes décisions pour développer des lois et des règlements qui vont ultimement protéger les consommateurs et les investisseurs.
Je vais essayer de me faire le porte-parole de quelques personnes, pas beaucoup, mais nous sommes quand même un certain nombre. FinTech, mm-hmm. intelligence artificielle, tu as dit Ethereum, Chainblocks ou blockchain, ouais. Tout ça c'est un peu... C'est une espèce de nuage flou okay. dans lequel on ne comprend pas grand-chose. Mais tout à côté de moi, il y a des gens qui soudainement débarquaient un matin puis me disaient « Oh, j'ai fait 24 000 $ de, ouais. c'est d'Ethereum là. » Et puis après, ça avait disparu. Donc, en fait, grosso modo, le public n'a pas encore conscience de tout ce qu'il y a autour de l'influence des technologies dans la finance ou dans
la transformation numérique de la
société financière. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus?
En fait, pour te faciliter la compréhension, et je ne vais pas trop passer du temps sur les crypto-monnaies, parce qu'il faut vraiment prendre beaucoup de précautions par rapport à ça, pour clore rapidement la boucle sur les crypto-monnaies, au Canada, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui souhaitent se risquer là-dedans, et je le déconseille fortement.
Tu utilises le terme se risquer.
Je dis bien se risquer. Ouais. On a travaillé fort ces dernières années pour inscrire certaines plateformes d'échange de crypto. Donc, si tu veux t'exposer à cela, il y a différentes façons d'y parvenir, mais nous, ce qu'on veut, comme je l'ai dit, je le répète, c'est de protéger les consommateurs et les investisseurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inscrit certaines plateformes, il y en a 10 au total. Si tu fais affaire avec ces 10, tu minimises certains risques en fait, okay. dont des risques de fraude, etc. Okay. Donc, il y a une liste de 10 plateformes inscrites au Canada. Tu peux aller sur le site web de l'AMF, elles sont là. Il y a certaines vérifications diligentes qui ont été faites par rapport à ces plateformes d'échange de crypto-monnaies, etc. Mais comme j'ai dit, même si c'est nous avons inscrit ces 10 plateformes au Canada. Je déconseille fortement de s'exposer en fait, aux crypto-monnaies en général, aux crypto-actifs. Et voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour venir maintenant sur comment est-ce qu'on utilise par exemple les données ou l'intelligence artificielle dans le domaine de la finance. La finance, les gens font le raccourci « finance est égal à banque ». Mais en fait, c'est plus large. La finance, c'est les assurances par exemple. Okay. Le domaine des assurances est un domaine que l'AMF encadre.
On voit qu'il se coule la tête.
Ouais. Ouais. Mmh. Et Dans le domaine des assurances, mais justement, il y a différentes décisions importantes qui sont prises dans le domaine de l'assurance. Donc, une personne va vouloir assurer sa voiture, sa maison, prendre une assurance vie, peu importe. Mais derrière, il y a des modèles. Donc, il y a des modèles, des programmes informatiques qui prennent parfois des décisions qui les automatisent. Nous, ce qu'on veut, et c'est là où je parle vraiment de l'importance, en fait, de l'éthique, etc., c'est que aujourd'hui, on veut s'assurer que certains modèles qui prennent des décisions aient le moins de biais possible. Donc, si tu veux, par exemple, tu habites dans un code postal quelconque, tu vois, mais c'est dommage, supposons si on refuse de t'assurer parce que tu habites dans un code postal particulier et que ton code postal, par exemple, est associé par exemple, à des communautés autochtones, etc. Ça, on veut l'éviter. Donc, et on veut s'assurer que les programmes, les machines, etc., soient sans biais. Et donc, raison pour laquelle on est en train de travailler sur, justement, sur un cadre pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle en finance, parce que tous ces programmes sont des programmes, mais tu dois t'assurer que ça fonctionne de façon éthique, sans biais, avec certains principes. Donc voilà, alors ça c'est un autre exemple de ce qui est fait au quotidien avec mes collègues sur par exemple l'assurance. Ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples également sur le fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'investisseurs autonomes. Par exemple des gens qui vont se dire, mais voilà, je ne suis pas obligé de faire affaire avec un conseiller financier, donc je veux moi-même trader, etc. Et on veut s'assurer que ces investisseurs autonomes, en tout cas ceux qui offrent des plateformes numériques qui font de l'investissement autonome, soient bel et bien inscrites et que ça respecte certains standards aussi. Donc, c'est tout ça. Alors, ça ne se limite pas juste aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs. Mm-hmm. C'est large.
Alors, on a parlé de littératie financière, ouais, éduquer les gens.
Tout à fait, voilà. Absolument. Ouais.
Mais maintenant qu'on est au niveau de la transformation numérique, ouais, qui c'est qui va faire ce travail d'éducation, de littératie? Donc, est-ce que c'est l'AMF ou...
L'AMF et d'autres régulateurs, parce qu'on travaille avec d'autres régulateurs au Canada et dans le monde, on a vraiment des beaux programmes d'éducation financière, de littératie financière. On a des campagnes intéressantes qui ont été... Peut-être que vous avez vu les pubs dans le journal, mais en tout cas sur les crypto-actifs, on a fait plusieurs publicités là-dessus pour dire au monde, attention, prenez les précautions par rapport à ça. Il y a tout un programme d'engagement aussi avec des écoles, des universités pour faire avancer ces questions de littératie financière, parce que la littératie financière et numérique en général, c'est pas juste ne touche pas aux cryptos, ça va plus loin. Mm-hmm. C'est comment est-ce que vous adoptez des bons comportements pour épargner, etc. Donc c'est nettement plus large. Et on a toute une équipe qui fait ça. Donc voilà. Alors ça, c'est ton collègue à moi qui est directeur là-bas.
Ok. Dans le volet fintech et innovation, l'innovation consiste en quoi?
Mais l'innovation, en fait, c'est de rendre l'expérience consommateur, utilisateur du service financier, plus facile, en anglais seamless. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, tu n'es plus obligé de partir dans une succursale pour déposer ton chèque. Okay. Tu peux le faire avec ton téléphone portable. Tu prends la photo de ton chèque et c'est réglé, tu l'as déposé. Donc, c'est toute cette philosophie voulant qu'on va simplifier la vie des utilisateurs de services et de produits financiers pour que ça soit déjà, un, plus englobant et plus inclusif, donc pour arriver à rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, mais aussi que l'expérience soit plaisante, en fait, tu vois. Et c'est là où, et je parlais des données un peu plus tôt, c'est là où le fait d'utiliser des données, de les valoriser, a un rôle extrêmement important. Parce que c'est du service maintenant sur mesure. On ne va pas t'offrir des produits de services financiers, tu sais, de genre rubber stamp, là, etc. Donc vraiment, un réel effort pour développer des produits de services financiers juste pour Cyril, tu sais, ou juste pour Isabelle, ou juste pour, tu vois. Mais pour y arriver, ça requiert certaines données, tu vois. Donc il y en a qui vont trouver des façons de valoriser certaines données, etc., pour y parvenir. Il y en a qui vont faire beaucoup d'efforts pour réduire les coûts. Donc, par exemple, dans le domaine des paiements, on le voit beaucoup. Donc, pendant longtemps, les grandes banques, en fait, on devait passer par ces infrastructures pour faire, par exemple, des transferts d'argent, etc. Ce qui pouvait être coûteux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de compétition. Par exemple, des jeunes pousses qui sont dans le domaine des paiements et qui facilitent les paiements. Et ces paiements, en fait, finalement, tu les payes moins cher en tant que consommateur. Donc, il y a le volet expérience client, il y a le volet du coût. Et il y a la volée de la compétition. C'est-à-dire que plus tu as d'intervenants qui sont là, plus tu as de compétition, mieux tu as du service, en fait, quelque part.
Évoluer encore, mais juste avant, je fais une petite synthèse pour comprendre quelque chose. C'est que dans ton parcours, on va dire académique, tu dis je vais aller faire des études d'économie, lien avec la politique, je reviens toujours là-dessus. Tu veux travailler chez un, ton rêve, entre guillemets, pour le moment, c'est d'être chez un régulateur. Aujourd'hui, tu y es.
Un de mes objectifs.
c'est pour ça que j'ai dit vraiment que là, pour le moment, c'est celui-là. Mais tu te retrouves aujourd'hui dans un domaine que ta formation, a priori, ne t'y menait pas. Toi, il a fallu que tu y aimes tout ce qui était technologique. C'est ta curiosité qui s'y a conduit.
En fait, moi, si j'ai un message clé à faire passer ce soir, ouais. C'est que on n'arrête jamais d'apprendre. Et il faut toujours garder cette curiosité, cet esprit ouvert pour apprendre. Parce que les compétences, ce que j'ai appris dans mes études universitaires, c'est complètement caduque aujourd'hui en 2023. C'est plus applicable. Caduque, bon, j'exagère là, parce que j'ai appris à très bien écrire, etc. Bref, ça m'a été utile. Mais le skill set, les compétences que tu auras besoin, par exemple, en 2040, c'est pas du tout la même chose. Il se peut que des jobs qui n'existent pas encore vont se créer en 2040. Mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut être à jour. Donc, être à jour, c'est un travail de tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose que forcément ton employeur va te fournir. Il faut que toi-même, tu aies une forme d'ouverture et de curiosité pour se dire « Ah, je vois cette tendance intéressante, je vais essayer d'explorer ça pour en apprendre un peu plus. » Parce que le marché, le monde et le marché du travail est tellement dynamique aujourd'hui. L'économie est tellement dynamique que pour ne pas se faire remplacer par un robot, aujourd'hui on parle beaucoup de ChatGPT, mais il faut vraiment développer des compétences en fait qui seront utiles.
Quelle est, dans ta mise à jour, quelle est la tendance que tu as vue qui t'a amené à dire bah, « Tiens, je vais aller au collège des administrateurs.
» Donc, pour la petite histoire avec là, plus mon expérience en gouvernance, tu l'as mentionné, j'ai toujours été très engagé dans la communauté, valeurs fondamentales venant de mon éducation, etc. Mon premier CA, quand je suis revenu en 2013 ici, c'était le centre des jeunes L'Escale à Montréal-Nord. Je te disais l'importance de l'éducation. Pour moi, le fait de pouvoir aider en fait, le CA du centre des jeunes L'Escale à se structurer, c'était important pour moi. À l'époque, je n'avais pas d'auto, donc je prenais le transport public. Je faisais 1h30 pour aller à Montréal-Nord pour justement contribuer au CA de L'Escale. Donc, assez rapidement, je me suis engagé bénévolement sur des conseils d'administration, etc. Étant moi-même quelqu'un qui baignait dans la gestion des risques, la conformité, etc., j'ai toujours compris à quel point la gouvernance est essentielle et centrale pour qu'une organisation, quelle que soit sa taille et sa vocation, fonctionne bien. Que ce soit une OBNL, que ce soit une entreprise multinationale, à un moment donné, tu as besoin de règles de gouvernance.
Ok.
Donc, et ces règles de gouvernance, le mieux tu les appropries, le mieux c'est en fait. Donc, et pas seulement en tant qu'administrateur, je dis que tout le monde doit avoir des connaissances de base en gouvernance. Mais avec le temps, avec mes implications, etc., forcément, vous commencez à siéger sur différents CA, etc. Vous, comme dans toute chose. Vous êtes en train d'acquérir de l'expérience, etc. Et voilà, et c'est comme ça qu'en 2020, j'ai été nommé sur le conseil d'administration du port de Montréal. Et j'ai toujours la formation ASC que j'ai terminée en 2022. C'était cette volonté aussi de parfaire en fait mes compétences en gouvernance. Parce que vous avancez en gouvernance, à un moment donné, vous dites « Ok, j'ai besoin d'avoir la boîte à outils à jour pour faire encore mieux mon travail. » Donc, et voilà, alors j'ai étudié pour mon titre ASC les fins de semaine. Ça tombait au même moment que la naissance de mon fils en 2020. Donc, je gérais le bébé, je gérais en même temps l'AMF, plus le port, plus mes cours. Mais c'est important parce que c'est comme ça que vous arrivez justement à rester à jour, donc à parfaire vos compétences. Et aujourd'hui, je vous dirais que j'ai une certaine assise en gouvernance. Mais même là, j'ai le titre ASC. Mais il y a de la formation permanente. Donc, il faut continuer à lire. Ça n'arrête pas.
Tantôt, tu as dit une chose. On a créé un poste directeur fintech et innovation. J'ai appliqué. Et là, tu dis la gouvernance, il faut aller essayer toujours d'en connaître toujours peu plus. Je ne peux pas discuter avec toi, Omar, et tu as anticipé un peu sur l'implication, sans parler du fait d'être noir dans une société comme celle-là, parce que quand on parle du fait que tu sièges aujourd'hui au CA du port de Montréal, ça a relativement été assez mentionné que c'était quelque chose quand même de rare. Qu'est-ce qui te permet, moi, une expression de jeune, qu'est-ce qui te drive? C'est quoi ton truc? Tu tournes comment? Comment tu dis, j'applique, tiens, on a ouvert un poste directeur fintech, innovation, RM, tiens, je vais appliquer, alors que, perception fausse ou vraie, on dit, généralement, on regarde ça, puis on dit, oh, c'est pas pour nous.
Une des choses que je retiens de mon parcours, et je l'ai mentionné plus tôt, donc j'ai eu la chance de vivre dans de nombreux pays, il faut être en mesure de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort est votre seule façon de grandir. Si vous sentez que vous avez besoin de grandir à un moment donné, et que c'est par exemple à travers un poste ou une expérience, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Parce que souvent, on va se dire, il y a tel poste, j'ai peut-être, par exemple, 70% de ce qui est demandé, je laisse tomber. Mais non, il faut tenter sa chance, en fait. C'est que il faut tenter sa chance, et il faut surtout tenter sa chance pour les bonnes raisons. Si vous sentez que c'est parce que, en tentant cette expérience, ça va vous permettre justement de grandir professionnellement, humainement, allez-y. C'est vraiment ça qui me drive, en fait, quand je vois certaines opportunités qui peuvent se matérialiser. Et ensuite, vous vous posez les questions. Si ça fonctionne bien, vous obtenez le poste, etc., ensuite, c'est vraiment de réévaluer, OK, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux atteindre. Et ensuite, c'est vraiment un choix personnel. Qu'est-ce que je veux faire avec ce poste, ce rôle, et dans quelle mesure je peux contribuer, que ce soit contribuer de façon très concrète pour cette nouvelle organisation que vous allez joindre ou contribuer de façon plus large à la société. Le port de Montréal, j'ai été déjà très, très, très... c'est avec beaucoup d'humilité, en fait, que quand on m'a approché, que j'étais là, OK, waouh, OK, vous me voulez éventuellement sur le port. Bon, il y a eu quand même un processus de sélection, il y a eu des vérifications, j'ai été nommé. Mais j'ai toujours su à quel point les infrastructures portuaires sont centrales, au même titre qu'en aéroport. Ce sont des connecteurs. Ça permet en fait de rassembler du monde et surtout de commercer. Avec un background international comme le mien, et surtout ma curiosité, parce que j'adore tout ce qui est avion, train, c'est mon côté un peu geek là-dessus, je me suis dit, mais quelle belle opportunité justement d'apporter... Bien sûr, mes compétences en risque, etc., réglementaires, mais aussi d'apporter une autre perspective autour de la table. pour que le port prenne des décisions qui sont toujours favorables pour la communauté dans laquelle on vit. Le port, en fait, c'est encore une fois un service public. C'est quelque chose d'essentiel. Au même titre que le service de bus, le service de métro, etc. Vous avez besoin d'un port pour faire du commerce, pour justement exporter tous vos biens, tout le travail que les gens font, en fait, ici au Québec, avec forte valeur ajoutée, mais ça passe par le port. Donc, c'est vraiment une courroie de transmission extrêmement importante, mais sur un CA, vous êtes justement cette chance de voir, d'une part, comment ça fonctionne, s'assurer que, bien sûr, les règles de gouvernance, etc., soient bel et bien appliquées, mais venant de la communauté, etc., apporter un autre éclairage sur certaines questions. Ça, c'est sûr.
Tu as une totale confiance en toi.
Oui.
Okay. Un échec.
Un échec. Il y en a. Il y a des projets qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Il y a des projets qui, sur lesquels, par exemple, je n'étais pas préparé comme il fallait. Que ça soit...
On ne dirait pas, Omar.
Ah oui.
C'est vrai, on ne dirait pas. Ça a l'air d'être comme ça, un long fleuve tranquille. Tout était... J'ai ouvert, j'ai appliqué, j'ai vu un post. Et c'est ça, en fait, que si je peux me permettre, c'est ce parcours-là, quand en introduction, j'ai dit, ben oui, voilà quelqu'un qui a un parcours inspirant. Qui, depuis qu'il est là, ben, il avance. Et Dieu seul sait que dans ces communautés, les différentes, on a besoin de modèles. Et c'est là où j'ai mis en avant ben, la confiance. Je dis, ben, tiens, je vais appliquer.
Mais je mentionne souvent en fait, le fait de cette notion de croissance, de grandir. Donc de grandir professionnellement, humainement, etc. Malheureusement ou heureusement, vous avez besoin de vous casser les dents de temps en temps. Pour être en mesure justement de grandir, de rectifier le tir, etc. C'est comme ça. Mais vous avez aussi besoin de gens qui vous entourent, de gens bienveillants, qui veulent justement que vous progressez. Quand je regarde par exemple aujourd'hui comment je rédige certains rapports ou comment je rédige certaines présentations, jamais je n'aurais obtenu ces niveaux si ce n'était pas par rapport au feedback reçu par certains patrons, certaines personnes qui m'ont dit « Écoute, Omar, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu présentes ça de telle ou telle façon. Ou il faudrait aborder tel sujet sensible de telle façon. » Tu vois. Et c'est d'être ouvert justement à cette rétroaction. Parfois, la rétroaction peut être difficile et c'est correct. Mais c'est votre seule façon de grandir. Si vous n'arrivez pas à avoir de la rétroaction, c'est difficile parce que vous restez là où vous êtes. C'est comme un athlète, quel que soit le sport. Dernièrement, j'ai regardé sur Netflix justement une série. Ils ont fait tout un ensemble de séries sur les joueurs de tennis. Et on voyait Félix Auger-Aliassime, dont on parle souvent. Mm-hmm. Son papa est togolais. Et c'était impressionnant. C'était 40 minutes, mais comment justement Félix Auger-Aliassime se prépare pour Roland Garros? C'est quelque chose. C'est pas. C'est drôle parce que son coach actuel, c'est l'oncle de Nadal, qui est la sommité qui gagne le Roland Garros tout le temps. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est l'oncle de Nadal qui coach Félix. Mais qu'est-ce que c'est dur de se. Le coaching qu'il reçoit, c'est dur. C'est pas Félix, t'es beau, etc. C'est Félix, ça marche pas, là, on recommence. Pourtant, c'est ton champion, Félix, tu vois. Mais. Tu peux être un champion, tu peux être n'importe qui, tu as besoin de ce feedback pour grandir.
Je veux qu'on finisse avec, même si on l'a abordé, on va juste dire un mot là-dessus. Je me rappelle en 2019, tu es au REPAF et je te pose la question de savoir pourquoi tu t'impliques au REPAF. Je pense qu'à l'époque, c'est PwC et tu as cette... phrase, je m'en rappelle toujours, que pour toi, tout le monde doit s'engager, quelle que soit la cause,
exact.
Il faut avoir un engagement social, il faut avoir un engagement communautaire.
Ouais.
Pourquoi?
Mais j'y crois fermement, parce que vous avez, en fait, comment dire, la vie de tous les jours, c'est quoi? Souvent le modèle classique, c'est que je me réveille le matin, je vais au boulot, je rentre le soir, j'ouvre la télé, je pars me coucher, entre guillemets, je schématise. Hein. Mais je me dis qu'il y a tellement plus de richesse à rencontrer les autres, à essayer de connaître les autres, à apprendre des autres. Et la meilleure façon d'y parvenir, justement, c'est de sortir de chez soi, de rencontrer des gens qui ne vous ressemblent pas, et de se dire, ben, on a tous un talent, on a tous quelque chose de particulier, quelque chose en nous, et comment est-ce que je peux le partager ? Et quand je dis que c'est important de s'investir, de s'engager, ça peut être pour n'importe quelle cause. Il y a des personnes qui ont une réelle passion pour les arts. Engagez-vous dans les arts. Mais donnez le meilleur de vous-même quand vous le faites. Il y a des gens qui ont un engagement, par exemple, pour les banques alimentaires. Ça, c'est important. Mais si vous vous engagez, donnez le meilleur de vous-même. Exactement comme vous donnez le meilleur de vous-même dans votre boulot au quotidien, faites la même chose quand vous vous engagez dans des causes. Donc, c'est vraiment ça ma philosophie, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à bâtir des sociétés plus solidaires et aussi plus résilientes. Parce qu'à travers l'engagement, c'est comme ça qu'on arrive à passer à travers des phases difficiles. On a eu récemment une pandémie terrible, mais il y a eu un bel engagement de plusieurs personnes, que ce soit dans le domaine communautaire ou même dans le domaine de la santé, donc des gens vraiment qui ont donné de soi pour que ça fonctionne, pour qu'on y arrive. Je pense bien sûr même pendant cette période de pandémie, les gens qui nous livraient les magasins, etc., c'était important. Mais il faut s'engager, en fait. C'est ça ce que je veux dire comme mot-clé. Mais s'engager parce que c'est à travers ça que vous contribuez vraiment à bâtir des sociétés plus résilientes. Ouais.
On va s'arrêter seulement vraiment sur ton parcours qui est aussi ta vie. Rapidement, tu cours après quoi?
c'est pas que je cours après quoi que ce soit.
Tu vas où?
c'est une bonne question, en fait. Et je l'ai dit, je crois sincèrement au rôle important que jouent les institutions, au fait que l'économie, et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, le fait qu'il y a une urgence climatique, le fait qu'on doit être en mesure d'avoir les mécanismes en place pour que, d'une part, tous vivent dignement, mais tous vivent aussi dans un environnement qui leur permet de s'épanouir. Je pense que fondamentalement, mon action s'inscrit là-dedans. Maintenant, cette action peut prendre différentes formes, à travers différents véhicules. Aujourd'hui, je le fais à travers mon travail comme régulateur. Je le fais à travers mon travail comme administrateur du port. Comme administrateur du port, on a un plan extrêmement ambitieux pour justement décarboner l'utilisation, le fait de réduire l'empreinte carbone du port, donc que ce soit rendre les infrastructures portuaires plus vertes, etc. Donc, je pense que mon action s'inscrit là-dedans, en fait, dans le fait de rendre, en fait, cette économie tout simplement plus proche des gens, plus humaine, et s'assurer vraiment que tout ça arrive à s'épanouir. Je pense que c'est fondamentalement ça, et aussi pour nos communautés, parce que à un moment donné, oui, on voit des gens qui gagnent bien leur vie, etc., mais il faut que ça arrive, il faut qu'on arrive à tous être bien dans la société dans laquelle nous vivons. Et moi, je pense beaucoup que ça passe à travers le fait que dans nos communautés, surtout les communautés noires, on arrive à avoir cette réelle conscience de la valeur du travail, de la valeur, en fait, aussi de garder pour transmettre en patrimoine aux générations futures, etc. Et voilà.
C'était vraiment la toute dernière question que j'allais poser. C'est-à-dire qu'en tant que personne noire, est-ce que tu te sens une responsabilité?
Absolument, 100% tous les jours. Parce que, veut pas.
Est-ce que c'est la responsabilité de quoi? De réussir?
Non, quelle
responsabilité?
C'est vraiment la responsabilité d'accompagner toutes les personnes qui viennent après moi. oui, j'ai ouvert des portes, mais il y a des personnes qui étaient là avant moi. Isabelle est là. Isabelle est vraiment un modèle, en fait. Elle a vraiment ouvert la voie pour beaucoup de personnes. Le fait qu'elle a occupé des postes de vice-présidente, etc., pendant longtemps, mais moi, je sais que c'est possible. C'est-à-dire que c'est... récemment, on a beaucoup parlé de Madeleine Fekir, qui vient d'être nommée consul général à Chicago. Donc, tout le monde... En fait, ce que je veux dire, c'est que en travaillant, en étant sérieux, etc., c'est possible. C'est ça que je veux dire. Et c'est important d'envoyer ce message dans la communauté, mais nous aussi, de façon active, de laisser la porte ouverte, de se dire, mais c'est possible. J'aimerais qu'une autre personne, dans quelques années, se dise, mais voilà, j'aimerais aussi avoir une responsabilité comme Omar chez un régulateur. Ça peut être à l'AMF, ça peut être ailleurs, mais c'est se dire que c'est possible. J'ai une très bonne amie à moi qui est originaire du Niger. Elle est début trentaine, elle est brillante. Elle travaille à la NASA aujourd'hui. Première femme du Niger qui est à la NASA. Fait un doctorat en France, elle a fait la France. Mais c'est possible. Et Fadji fait un énorme effort pour encourager les jeunes femmes à s'intéresser aux sciences. Et le message, c'est que vous pouvez être une femme originaire du Niger et être à la NASA. C'est possible. Donc c'est vraiment ça que je veux envoyer comme message, que vraiment tout est possible. Mais ça requiert du travail, ça requiert parfois du feedback difficile pour vous permettre de vous améliorer. Et il faut aussi tenter sa chance. Ça veut dire se dire, OK, il y a telle opportunité, j'y vais. Même si je n'ai pas le 100%, j'ai peut-être 70% des critères, mais j'y vais. Et je pense que ça peut vraiment aider nos communautés à s'élever. Et tout ça, c'est en s'élevant à travers, et je sais que ce mot est parfois galvaudé, mais à travers l'excellence. Parce que c'est comme ça que vous arrivez à être top, 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 top.
Merci à Omar Diallo, invité de cette troisième édition des Grandes Conversations, et merci au public qui a pris part à cet échange. Je vous dis à la prochaine. Mon nom est Cyril Ekwala.